vue d'ensemble de l'actualité.
Ladies and gentlemen, the president-elect of the United States, Joseph Robinette Biden Jr. and Dr. Jill Biden.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute
the office of President of the United States.
Office of President of the United States will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend
the Constitution of the United States. The
Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
C'est quand même quelque chose, le juge en chef de la Cour suprême qui fait prêter serment, puis à la fin qui dit « Félicitations, Monsieur le Président! » Valérie Beaudoin, bonjour.
Bonjour.
Luc Lavoie, bonjour.
Allô.
Bon, Valérie, qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière heure d'abord?
Écoute, on a eu quand même plusieurs choses. Je veux juste dire un... Je veux juste dire un
comment. Senti comme le Martin McGuire de la politique américaine.
Mais je suis moins, je pense, enjouée dans les
dans
buts sont scorés. Hein,
moi, je suis le Danny Dubé.
Oui, oui, tout est
parfait, Danny. J'adore ça. On fait tout un duo. J'ai hâte à notre émission, Luc, ensemble. Non, mais j'allais dire, je viens de voir sur Twitter passer, Chris Wallace, il a dit que c'était le meilleur discours qu'il a vu d'investiture de tout depuis John F. Kennedy en 61. Ils ont tous écouté. Chris Wallace de Fox News, il a dit, c'est le meilleur discours qu'il a entendu de toute l'histoire.
Pourtant, c'est un très, très, très pro-républicain, Chris Wallace.
Un anti-Trump, mais un pro-républicain. Ouais. Ouais, un conservateur.
Ouais, un anti-Trump aussi. Hein?
Oui. Anti-Trump. Exactement.
Et je comprends pas comment il arrive. Écoute, comment peut-on... oublier le discours de John F. Kennedy.
Ne demandez pas,
depuis,
ne demandez pas, ne demandez pas à votre pays ce qu'il peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Hein,
ouais,
c'est ça.
Puis,
hein?
Puis Ronald Reagan en 80, écoute, il y a eu des discours quand même remarquables. Enfin, Chris Wallace s'est emporté. Il n'en pouvait plus de Trump.
Bon, fait que ça, c'est un des commentaires que j'ai vus sur Twitter dernièrement. Mais ce qui s'est passé depuis donc le discours d'assermentation, lorsque Biden a prêté serment aussi, on a eu les fameux dans les traditions, là, on revient toujours à ça, là, mais on a offert des cadeaux. Les membres du Congrès ont offert des cadeaux. On n'avance pas vraiment avec ça. Des vases, des drapeaux. On a eu des photos encadrées de l'assermentation pour démontrer le pouvoir de la technologie. Donc, je n'ai pas trouvé que c'était nécessairement ce qui a révolutionné non plus. On a imprimé en format géant une photo de l'assermentation qui avait lieu 2 heures avant. On a remis ça dans un cadre à Kamala Harris et à Joe Biden.
Mais qui a donné ces cadeaux-là?
Des membres du Congrès. Des vases, des... Oui.
Ça fait partie de la tradition.
Le mot-clé aujourd'hui, Bernard, c'est tradition.
Bon, okay,
c'est tradition. Ensuite, il y a eu la revue militaire. Donc, on inspecte les troupes. On a vu dans les images là, qu'on voyait différents corps militaires circuler. On regardait ce qui se passait. Et là, on est en direction avec d'autres, des anciens présidents. Donc, bien sûr, Donald Trump n'y sera pas, ni Jimmy Carter. Mais on se rend au cimetière d'Arlington.
Ouais.
C'est en Virginie. Le cimetière que vous avez très certainement vu dans des films, si vous avez jamais été dans la région de Washington, où on voit les milliers de petites tombes blanches.
Je pense qu'on peut parler de dizaines de milliers même.
Je suis d'accord avec toi, je vais vérifier. Là, c'est
perte
de vue.
C'est incroyable. C'est incroyable. Luc, moi, j'y suis allé à Arlington, j'ai passé une journée complète à Arlington, puis j'en suis resté profondément marqué. Je suis certain que tu es déjà allé aussi, hein?
Ah oui, bien sûr que j'ai été...
Raconte un peu, pendant que Valérie fait la recherche, là, combien de...
400 000.
400 000 militaires américains sont enterrés à Arlington.
Mais 320 000 personnes sont enterrées parce qu'il y a bien sûr des tombes, des soldats inconnus ou autres. Donc, il y a des trucs un peu cérémoniales où Robert Kennedy, il y a aussi une plaque commémorative, John F. Kennedy.
Mais 320 000. Valérie, attention, le soldat inconnu, il y a bel et bien...
Oui, il y a des ossements, c'est ça,
ouais,
celui-là,
ben,
t'as raison.
Il y a une dépouille mortelle
qui
est là.
Vrai.
Ça fait partie, ça mais aussi.
Et le changement de la garde, d'ailleurs, de la tombe du soldat inconnu à Arlington, c'est incroyable.
Ah oui, oui.
Ben, faut dire que le fameux, comment ils les appellent, the Garrison, the Washington Garrison, c'est un détachement militaire d'environ 1500 personnes qui ne fait que ça. Du cérémonial. Donc, ce sont des gens, là, quand tu voulais les voir faire à Arlington Cemetery, entre autres, là,
incroyable.
C'est d'une perfection dans l'exécution qui est incroyable.
Ah, oui.
Puis d'ailleurs, il y a un magnifique film hein, de Francis Ford Coppola, The Gardens of Stone, et qui se passe tout autour du cimetière d'Arlington. En fait, ce sont les militaires qui sont là pour les cérémonies. Le film tourne autour de ça.
Et il y a un petit musée, d'ailleurs, là où les membres de la garde se changent.
Oui.
Juste à côté, tu peux y aller, là. Tu peux aller visiter une espèce de petit musée. Alors, il rentre, et puis là, à un moment donné, tu peux voir là, l'endroit là où il... En tout cas, c'est extrêmement émouvant là de visiter Arlington.
Ah,
là.
Oui.
Moi, la première fois que je suis allé, là, écoute, c'est à perte de vue. Tu marches et tu marches et tu marches et tout ce que t'as, c'est des pierres tombales. Puis là, tu peux t'arrêter. Tu vois l'âge qu'il avait. À un moment donné, t'as le monument qui est dédié aux victimes de l'explosion de Challenger.
Oui.
Ils sont enterrés la navette spatiale. Et après ça, en tout cas, c'est une histoire. C'est l'histoire de l'Amérique dans un cimetière.
C'est le cimetière dit national. C'est l'équivalent un peu entre le Panthéon à Paris puis le cimetière du Père Lachaise, tu sais, s'il y a quelque chose là.
Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est extrêmement touchant d'être là parce qu'on voit aussi les familles, on voit des fleurs sur certaines pierres tombales, mais c'est en même temps très beau. C'est assez particulier endroit parce qu'on c'est sur une montagne. Pour les gens, quand vous pourrez revisiter Washington, quand on sera en ère post-COVID, ouverture de frontières,
ça vaut vraiment la peine.
Je vous invite à y aller parce que la vue qu'on a de Washington, du Potomac, ça vaut la peine. Et donc, pour revenir à ce qui se passe aujourd'hui, on s'est emporté.
On s'est laissé un petit peu emporter.
Alors, on va visiter justement ce cimetière. C'est un signe, bien sûr, de respect. Barack Obama y sera, Bill Clinton y sera, George W. Bush aussi sera aux côtés donc de Joe Biden. Ça sera dans les prochaines minutes. Là, on se dirige vers ce cimetière qui est en Virginie, tout près de Washington.
Et Biden qui a signé ses premiers décrets, sauf que ce n'est pas ceux dont on avait parlé. Ce sont ses nominations au cabinet, c'est bien ça?
Oui, exactement. Il a signé pour accélérer justement ses nominations au cabinet. Donc, il a signé trois choses jusqu'à maintenant. Alors, ça sera plus tard dans la journée qu'on signera les fameux 17 décrets, donc les décrets présidentiels pour ce qu'on s'est parlé là, tout à l'heure au niveau de l'environnement et de l'immigration.
Qu'est-ce que tu souhaites ajouter, Luc? Parce que moi, je veux revenir sur la question de la sécurité dont on a parlé dans la deuxième heure. Mais est-ce que tu veux nous parler de... Y a-t-il un aspect particulier qui a retenu ton attention là, dans
La mise en scène, et je commence hier, là, quand ils sont allés rendre hommage aux 400 000 victimes de la COVID, le long du fameux mile, le mall, comme on appelle, des photos qui ont été calculées dans les moindres détails par des experts, et c'est comme ça depuis le début de la cérémonie. Je regarde chaque étape, tu vois qu'ils ont calculé précisément quelle image ça va donner, et cette photo-là à Arlington, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ça devrait être assez extraordinaire.
Est-ce que tu as... été frappé par la cérémonie de départ de Biden du Delaware, Luc, quand il a remercié les gens du Delaware et il a cité sa mère qui était une Irlandaise et qui disait, si j'ai bien compris, là, j'espère que je vous induis pas en erreur, mais elle disait, sa mère, racontait-il, quand je vais mourir avec le mot Irlande tatoué sur mon cœur. Et lui, il a dit, moi, lorsque je partirai, c'est le mot Delaware que j'aurai de tatouer sur mon cœur, parce qu'il a été sénateur du Delaware pendant une trentaine d'années. Les gens du Delaware ont fait de lui, à bien des égards, ce qu'il est devenu. Et il a pleuré. Il était très ému hier.
En parlant de son fils,
aussi.
Faut que les gens comprennent que le centre des congrès de Wilmington, où il avait installé son équipe de transition, a créé une pièce qui porte le nom de son fils Beau Biden, qui s'appelle d'ailleurs Major Beau Biden, parce qu'il a été major dans l'armée américaine et il a servi en Irak. Et c'était, lui et son père étaient très 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 proches. En fait, Joe Biden, dans ses rêves, Beau Biden serait devenu président des États-Unis. Il était déjà le procureur général du Delaware quand il a été atteint d'un fulgurant cancer au cerveau. Ouais, il est mort très jeune. Et c'est là qu'il a versé une larme. Je pense que ce gars-là a vécu de grandes tragédies personnelles dans sa vie. Et on sent l'humanisme chez lui.
On a l'extrait, Luc, on écoute ça.
Ladies and gentlemen, I only have one regret. He's not here. Because we should be introducing him as president. But we have great opportunities. Delaware's taught us anything's possible. Anything's possible in this country. So God bless you all, and may God protect our troops. Thank you.
Oh boy, la voix qui casse, là.
Et c'est un ami aussi, c'est un ami de Kamala Harris, son fils. son fils Beau.
C'est lui qui est décédé?
Un ami. Ah, oui, exactement, parce que Kamala Harris était procureur général de la Californie, lui était procureur général du Delaware. Et ils ont toujours eu cette proximité-là en raison de cette amitié entre Joe Biden et Kamala Harris. Mm. Et quand on parle du Delaware qu'il a tatoué sur le cœur, une de ses grandes déceptions aujourd'hui, c'est qu'il voulait venir à Washington comme il le fait pendant des années.
En train?
En train.
Oui.
En train, et pour des raisons de sécurité, on a dû annuler à la dernière minute, mais pour lui, c'est une grande, grande déception parce que c'était la symbolique et les gens étaient tellement fiers, justement, à Wilmington.
Parce qu'il faut savoir que quand il était sénateur, là, tous les matins, il prenait le train de 8 heures. Mm. Puis il arrivait à Washington à 8h45, pardon, à 9h15. Et là, il faisait sa journée de travail, puis il reprenait le train vers 7h le soir pour rentrer puis avoir un souper un peu plus tard que la moyenne, mais avec sa famille. Alors, il faisait ça 5 jours par semaine, parfois plus.
Et il connaissait le nom des employés aussi du train.
Oui.
Il connaissait le nom des conducteurs de train, des gens qui travaillaient à la gare. Il les connaissait par leur prénom.
Ah, c'est
donc,
génial, ça.
Je trouve que c'est quelque chose qui rajoute à la personnalité de Joe Biden, qui est près du monde. Là.
Oui. C'est vraiment un exemple. C'est pas du fourné ballonné, ça.
Non, c'est pas. Il y en a plusieurs qui ont fait des témoignages. Puis on a vu les symboles là, du train, d'Amtrak et tout ça. Lorsqu'il y a eu, on a confirmé que c'était lui le candidat à la présidence. Il y avait beaucoup d'images, beaucoup de symbolique avec ça. Parce que pour lui, Luc l'a bien dit, il voulait rentrer auprès de sa famille parce que sa femme était décédée, sa fille aussi, sa jeune fille, et il voulait faire son travail de sénateur, mais il voulait rester près de sa famille, il voulait pas les déraciner.
Il voulait faire son travail de père de famille.
Exactement,
aussi.
Il voulait pas les déraciner du Delaware et les déménager à Washington. Il voulait qu'il y ait une certaine normalité, mais il tenait à rentrer à tous les soirs là auprès de sa famille.
C'est très beau ça. Luc, reparlons un peu de la sécurité. Moi, je te le dis, j'ai une obsession là avec toutes les espèces de fous braques armés jusqu'aux dents qui vivent un peu partout sur le territoire américain. Là, c'est milices, c'est partisans. Moi, je suis assez inquiet soit pour Biden, soit pour sa famille. J'imagine l'appareil de sécurité autour de Jill Biden, autour des enfants Biden, autour de Kamala Harris. Honnêtement, là, ça va être. Écoute, les services de sécurité, Luc, là, au cours des prochaines années, ça va être un travail de tous les instants. Ça va lui prendre une vigilance incroyable. Moi, je suis certain qu'il va y avoir des. Il y en a toujours, de toute façon, mais la menace est encore plus grande maintenant.
Peut-être que la menace est encore plus grande, mais souviens-toi, Bernard, que quand Barack Obama a été assermenté en 2008, on disait exactement la même chose. Le premier président noir, il y a des extrémistes racistes, il va falloir une sécurité de tous les instants. Mm. Après ça, t'as Trump. Trump aussi, lui, fallait une sécurité de tous les instants parce que, je sais pas si tu sais, mais les Afro-Américains, comme on les appelle, après la mort de George Floyd, ils auraient été prêts à y faire du mal, pas mal. Là. Mais cette sécurité-là, elle est déjà là.
Toi, t'as pas d'inquiétude particulière. Moi, j'en ai, en tout cas, là. Écoute.
Ben, j'en ai
ils sont
tout le temps
fouettés,
concernant.
Ouais, moi aussi. Mais là, c'est, écoute, je veux dire, il y a 4 ans, là, Luc, là, t'avais pas une gang de débiles armés avec des AR-15 qui ont pris d'assaut le Capitole. Là, t'avais pas cette espèce de société américaine métastasée, là, avec un paquet de petits groupuscules d'extrême droite qui sont un peu partout sur le territoire, là.
T'as sans doute raison, mais tu comprends, la sécurité parfaite et absolue est impossible.
Non, ça, je le sais, ça.
Et la seule façon, te diraient les experts du Secret Service, il faudrait que le président vive dans une bulle antiballe. Alors, forcément, il va prendre des chances parfois, mais tu peux pas imaginer jusqu'où le Secret Service va pour protéger le président des États-Unis. Moi, j'ai travaillé avec eux, je les ai vus de proche, je les ai vus faire. Oh là là, on n'a rien qui ressemble à ça par ici, là. Je sais pas, moi, je vais te donner des exemples qui me sont restés en tête.
Vas-y.
Tu sais, je me souviens qu'à un moment donné, le président qui, à l'époque, devait être George H.W. Bush, s'en allait à Rideau Hall, la résidence du gouverneur général, et il devait passer à peu près 3/4 d'heure dans une pièce. Et là, le Secret Service est arrivé, avait placé des plaques antibales, pas visibles à l'œil nu, mais qui avaient exactement la forme des fenêtres, et ils avaient pris des... Je sais pas comment l'appeler, Bernard. Une brocheuse, si ça se dit, une brocheuse. Avec la brocheuse, ils brochaient les rideaux dans le plancher pour être sûr que ça pouvait pas s'ouvrir puis devenir une cible. Ils vont tellement, tellement loin que parfois, ça peut être presque ridicule. Et c'est comme ça qu'ils sont vus, d'ailleurs. Parce qu'on dit généralement que l'homme le mieux protégé au monde, ou la femme, là, parce qu'il y a déjà eu une femme qui était à ce poste-là, c'est le premier ministre d'Israël. Eux autres, là, vraiment, là, c'est incroyable. Tu comprends? Je me souviens quand je sais plus lequel était venu à Ottawa. Un dans peut-être Helmut Olmert, je me souviens plus de quel était venu à Ottawa. La sécurité autour de ces gars-là, c'est comme, oh, ils sont presque dans une bulle antiballe. Et aux États-Unis, dès qu'il va s'éloigner du plan de match, puis qu'il va dire « je vais aller saluer la foule », tu vas voir se resserrer autour de lui, pas loin d'une trentaine d'agents. Mais là où ils deviennent un peu la risée des autres services de sécurité dans le monde, c'est leur, et ça va être la culture américaine, c'est leur amour des armes. Les gens du Secret Service ont tellement d'armes sur eux que c'est incroyable. Mitraillettes, pistolets, bombes fumigènes, ils ont ça sur, en dessous de leur habit. Et, anecdote pour anecdote.
Ah oui.
À Ottawa, la loi canadienne interdit d'amener en sol canadien, peu importe qui tu es, des armes. Alors, en principe...
Il y a
principe,
une exception pour le service secret, non?
Il n'y a pas d'exception formelle, il y a une exception tolérée.
Il y a une tolérance, oui, c'est ça.
Il y a une tolérance, il y a une tolérance. Et, ouais. Et ça fait toujours bien du chichi parce que la GRC ne l'accepte pas, les services de sécurité de la GRC disent c'est notre travail parce qu'effectivement, quand un leader étranger visite le Canada, il va arriver ici avec 5-6 membres de sa sécurité personnelle et tout le reste du travail est fait par la GRC. Alors, je me souviens d'avoir vu des scènes où les gars de la GRC commençaient à vouloir, après l'arrivée du président, là, quand Air Force One était sur le tarmac à Ottawa, là, qui essayaient de voir s'il n'y avait pas moyen de leur saisir une couple d'armes. Parce qu'en vertu de la tolérance qui s'était établie avec les années, on leur permettait d'avoir un pistolet. Et là, la GRC a dit, bon, ben, le pistolet, d'accord, là, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait avec la mitraillette? Qu'est-ce qu'on fait avec la bombe fumigène? Qu'est-ce qu'on fait avec ci, avec ça? Et une des raisons pourquoi c'est ridicule, puis tu vas voir, c'est très facile à concevoir, si t'es garde du corps du président des États-Unis, puis il y a quelqu'un qui tire, si tu retournes le feu, tu risques de tuer 10 personnes. Je veux dire, ça n'a pas grand-chose à voir, l'arme du garde du corps. Le garde du corps, il est là pour faire deux choses. Servir d'écran, mais aussi, il répète ça à satiété, si le président, s'il y a une attaque, même qu'il soit touché ou pas touché, instantanément, la porte de la limousine, qui est énorme, comprends-tu, oui. Ça doit avoir à peu près un pied et demi d'épais de métal, là. La porte s'ouvre, il pousse carrément, puis paf, la voiture décolle à plein régime. Alors ça, et quand il vient à Ottawa, le président, écoute, il arrive à peu près quelque chose comme 75-80 membres du Secret Service, et il leur donne même, parfois, ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont du Secret Service. Et juste pour ajouter à ça, tu sais, les fameux avions C-17, il y a des C-5 aussi, c'est des avions qui peuvent transporter des tanks.
Des avions cargo, oui.
Ouais. Alors, les gens savent pas, mais la limousine du président des États-Unis, puis il y en a plus qu'une, il y en a deux, on en a parlé tantôt, là, c'est transporté là où, quand il vient à Ottawa, disons, là, la veille de son arrivée, tu vas voir arriver un C-5 ou un C-17 qui va atterrir, tu vas voir les limousines sortir de là, les équipements de télécommunication et tout ce que tu veux. Ils installent des postes de commandement ultra sophistiqués. C'est absolument incroyable. Et évidemment, tout l'appareil de télécommunication, je pense que je te l'avais déjà raconté. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était une anecdote extraordinaire. Après la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe en 91, le président George H.W. Bush était venu à Ottawa pour signer un traité sur les pluies acides, mais c'était comme à peu près 2-3 semaines après la fin de la guerre. Mm. 2 semaines, je pense. Alors, il s'amène, et là, il entre sous la rotonde, c'est comme ça qu'on l'appelle, Bernard, sous la tour de la paix, sous la tour de la paix à Ottawa.
Oui.
Et là, il entre dans le Parlement, et il s'en vient, puis les seuls spectateurs qui sont là sont les députés et les sénateurs. Ils sont derrière des câbles, puis ils peuvent saluer le président, puis le président Bush était quelqu'un de très aimable. Si les gens voulaient lui adresser la parole, il le faisait. Alors, il y a quelqu'un qui s'avance vers lui, c'est un député conservateur de la Nouvelle-Écosse, et qui dit, « Monsieur le président, notre fils fait partie des US Marines. Il est déployé présentement dans le Golfe. Et depuis 2 semaines, on n'a pas une seule nouvelle. Ma femme est en train de mourir d'angoisse. Pouvez-vous m'aider? » Alors, le président a dit, « Suivez-moi. » Le député est parti, a suivi, est arrivé au bout. Tu connais très bien l'endroit, Bernard. Oui, oui. Sorti de la Chambre des communes, il montait cet escalier-là.
Ben oui, l'escalier vers le bureau du premier ministre.
C'est ça. Et là, il arrivait dans le bureau du premier ministre, puis il y a un bureau juste à côté, qui est le bureau de l'adjoint exécutif du premier ministre. Il dit à son attaché militaire, là, celui qui a le football, là, il y a aussi un appareil de télécommunication avec lui, il lui dit, comme ça, j'étais là, là. Il dit, « Give me Schwarzkopf. » Schwarzkopf, c'était le général qui commandait l'opération.
Ben oui.
Donnez-moi Schwarzkopf. Écoute bien, là. Environ 90 secondes plus tard, au milieu du désert, t'as le général Schwarzkopf se aligne avec Monsieur le Président, que puis-je faire? Il avait écrit sur un papier le nom et l'unité à laquelle il appartenait du fils. Et il dit, on cherche telle personne, pouvez-vous me la localiser? Il y a un député canadien qui est un member of parliament qui est très, très inquiet. Schwarzkopf dit, je vous reviens, Monsieur le Président. 12 minutes plus tard, paf! On vient chercher le député en question, puis on dit, prenez donc le téléphone, votre fils est sur la ligne. C'est incroyable! Écoute, Bernard, il y avait 800 000 troupes qui étaient dans le milieu du désert. Ils l'ont trouvé, bang, en 12 minutes. Alors, ce qui entoure le président des États-Unis, c'est tellement incroyable qu'en fait, ils font souvent... Tu sais, je vais t'en donner une dernière anecdote.
Là, il faut que j'aille à pause.
Ah bon, je donne une belle pour toi, à Paris. Mais je te la donnerai pas. Je te la donnerai juste à toi, Bernard.
Moi aussi, j'espère.
Luc, on va s'en reparler demain parce que je pense qu'on va reparler de Biden demain. Fait que tu nous racontes demain ton histoire de Paris. Ça marche-tu, ça?
Avec plaisir.
Très, très bien. Valérie, merci.
Ça me fait plaisir.
Peut-être qu'on va se retrouver demain aussi.
Mais je l'espère.
Parce que je pense qu'il reste...
J'ai une anecdote aussi de service secret. Fait qu'on pourra ça garder pour demain.
Demain, tu reviens?
Avec plaisir.
Excellent. On s'en va à la pause. Restez là.